Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Jules devient tout pâle et se dit qu'il a dû comprendre. Il va le perdre. Sylvain dit en riant. Et puis, si tu étais une femme, tu m'aimerais peut-être pas, car les goûts des femmes sont impénétrables, comme tu le dis. Donc, tu peux pas savoir ce qu'elles aiment. Il soupire et lui dit. Pour elles, je ne suis qu'un petit garçon, sans importance. Je lui dis. C'est bien ça, non? Au moins, tu restes jeune et puis un petit garçon. On ne fait pas bien attention à lui, ce qui lui permet de faire tout ce qu'il veut. Sylvain voit que la main de Jules est toujours sur la sienne, une main qui la tient chaudement. Je dis que Jules devrait la retirer et que cela prouve que lui aussi le prend pour un petit garçon. Cela l'attriste un peu. Surtout, il n'y a pas beaucoup de différence d'âge entre eux. Jules le voit triste. Cela l'a triste. Qu'as-tu? Sylvain lui dit. J'aimerais penser que mon meilleur ami me prenne pour un enfant. Jules sourit et lui dit. Je ne te prends pas pour un enfant, je te le jure. Sylvain lui dit. Alors enlève ta main de dessus ma main. Jules devient tout rouge. Sylvain aussi. Quelle idée stupide il a eue! Quel affront! Jules, la mort dans l'âme, enlève sa main. Il aimerait mourir, mais ne veut pas montrer son trouble. Ils se sentent gênés tous deux. Il suffit de peu de choses pour que les gorges se serrent, pour que l'on n'ose plus se regarder. Sylvain comprend. Que c'est de sa faute. Il lui dit, pardon, je suis stupide. Je lui dis, c'est plutôt moi. Sylvain, non, les femmes me font perdre la tête. Pas à toi? Non, Sylvain lui dit. Mais l'amour, oui. Jules ne répond pas. Que pourrait-il dire? Que pourrait-il penser de l'amour sans les femmes? Sylvain lui demande, votre sort n'est pas fâché contre moi? Non, pas du tout. Sylvain sourit et lui dit, tant mieux. Je crois qu'on devrait sortir ensemble tous les trois. Qu'en dites-vous? Jules lui répond, oui, ce serait bien, mais pour aller où? Nous pourrions aller manger de la friture aux environs de l'île Barbe, un de ces dimanches. Jules lui dit, je vais en parler à ma sœur. Sylvain lui dit, merci. Jules se lève et lui dit, je dois partir maintenant. Sylvain lui demande, vous êtes venu pour quelque chose? Jules hausse les épaules et lui dit, cela n'a plus d'importance maintenant. Sylvain lui dit, de toute façon nous reverrons. Souvent? Oui. Sylvain se lève et conduit Jules jusqu'à la sortie. avant qu'il n'ouvre la porte. Au revoir, Jules. Au revoir, Sylvain. Et Jules s'en va. De cette visite, il lui en reste un arrière-goût, ni figue, ni raisin. Arrivé chez ses parents, il va prévenir sa sœur dans sa chambre pour lui dire la proposition de promenade. Elle accepte, sans grand entrain. Ça me sortira, dis-lui oui, pour dimanche prochain. Nous pourrions partir à 10h de la maison. Comme ça, ça nous fera arriver à l'heure du repas. Jules a apporté la réponse à Sylvain, qui est d'accord. Jules souhaite une chose, c'est que sa sœur ait un empêchement et qu'il puisse y aller seul avec Sylvain. Le jour de la promenade, elle est prête. Ils attendent l'arrivée de Sylvain pour partir. Une fois qu'il est arrivé, ils sont sortis à pied en longeant la Saône. Il fait beau, le ciel est bleu, la promenade est étendue. Sylvain est au milieu du frère et de la sœur. Il regarde la sœur, qui le prend pas au sérieux, et Jules regarde Sylvain, qui ne voit que la sœur. Au début, cela l'attriste, puis petit à petit, il se fait une raison et se dit que c'est déjà beaucoup de l'avoir près de lui. Ils sont arrivés à l'île Barbe, l'ont visité et ont cherché un restaurant pour manger. Le repas s'est bien passé, même très agréablement. Le petit vin et leur jeunesse ont fait le reste. Ensuite, ils sont allés faire un tour sur les hauteurs. Ils sont assis dans un champ de marguerites, toutes jeunes, dans un champ en pente dont l'on voit la vallée de la Saône. Sylvain dit...
Quelle est folie ?
Est-ce que vous croyez que l'on peut être heureux sur cette terre? Apolline hoche les épaules et lui dit, tout dépend de ce que vous allez vous appeler pour bonheur. Il lui répond, le bonheur pour moi, c'est l'amour. Apolline lui dit, l'amour, l'amour, ça ne dure pas. Et puis l'amour d'un homme, c'est quelque chose de confus. On ne sait même pas si s'il est amoureux ou s'il désire simplement la personne. Moi, je ne crois pas à la sincérité de l'amour. Il n'y a que le plaisir, c'est tout. Les hommes sont tous pareils, des cochons. Jules la regarde et lui dit, tu exagères, n'oublie pas que tu es à côté de toi, Sylvain. Les hommes ne sont pas tous vicieux. Elle lui dit, non, bien sûr. En tout cas, pas pour leur premier amour. Mais après, lorsqu'ils ont goûté aux fruits défendus, je le regarde, Sylvain. Il semble triste, il a pitié de lui et dit à sa sœur, tu ferais bien de te taire. Elle hausse ses épaules et lui dit, bien entendu, vous Sylvain, je vous mets à part, vous êtes plus délicat de sentiments que les autres. Et lui donne un baiser sur la joue. Voilà, pour me faire pardonner. Et désormais, nous serons amis. Sylvain lui dit, soyons d'abord amis, je veux bien. Et l'atmosphère s'est détendue entre eux. Désormais, souvent, ils sortent ensemble tous les trois pour faire des promenades, aller au café et même au concert. Jules se met à apprécier ces rendez-vous car ça lui permet de voir Sylvain. Apolline, à force de le voir, se met à le traiter comme un petit frère. Sylvain se fait aimable pour tous deux, dans l'espoir d'avoir la sœur, le corps de la jeune fille, et petit à petit, en plus, il se met à apprécier ses sorties à trois. Surtout qu'il s'aperçoit que Jules le traite d'une façon très délicate. Jules fait toujours en sorte, lorsqu'ils sont assis, d'être près de Sylvain. Il veut sentir son corps. Être près de sa peau. Et même lorsqu'il y a foule, il fait exprès de se plaquer contre lui. Cela lui donne des vertiges. Il aimerait le serrer dans ses bras. Apolline trouve tout naturel que Jules soit toujours contre Sylvain. Car, elle, c'est comme si... Car pour elle, c'est comme si c'était deux frères. Et lui, Sylvain, ne fait pas attention à Jules. Est-il un ami? Et il peut bien être contre lui? Il aimerait mieux que ce soit Apolline, mais il se dit que ce serait pas convenable pour une jeune fille. Après plusieurs sorties ensemble, où ils ont discuté, dit leurs idées sur tout et rien, où ils ont ri aussi, et ceci de choses et d'autres, que personne ne peut comprendre à part eux, ont eu des émotions par la musique, la peur d'être en retard, la lecture de certains livres, de beaux paysages, et l'émotion cachée, non dite, de leur corps contre celui des autres. Donc, après quelque temps, ils sont tellement unis et se connaissent si bien qu'ils n'ont même plus besoin de se parler pour se comprendre. Quelquefois, ils rient tous trois de choses et d'autres qu'aucun n'ait dit quoi que ce soit. Les jours passent ainsi et... au fil des jours, ils finissent par être heureux tous les trois. Mais séparément, cela n'est pas la même chose. Jules, seul, repense à Sylvain et son amour s'amplifie. Il a envie de le baiser, de le caresser, de lui dire tout ce qu'il a dans le corps. Il ressent, revoit son regard. Le soleil sur son visage, son sourire, et tout ça, bien entendu, lui fait du mal, car il sait qu'il ne sera jamais à lui, qu'il ne pourra jamais le serrer contre lui. Son amour est à bout et ne peut l'extérioriser. Alors il pleure pendant des heures en pensant à ce beau visage. Un jour, il lui a prêté son mouchoir propre pour qu'il puisse éponger le visage en sueur et le lui a rendu. Jules ne fait pas laver le mouchoir, ne s'en sert pas, mais le garde pieusement sur lui. Même la nuit, de temps en temps, il le baise et le sent. Il a enfin quelque chose de Sylvain. Lorsqu'il baise le mouchoir, il a l'impression de le baiser, le sentir. Apolline, en dehors des deux garçons, retrouve son ennui, son opium qu'elle n'arrive pas à se défaire. Même lorsqu'elle sort avec les garçons, il faut qu'avant elle en fume une. Par manque d'argent, elle est obligée d'aller une fois par semaine voir le bon docteur Poirier, un espèce de fou qui prend son plaisir comme s'il était seul. Apolline te dit que s'il se faisait sucer par un chien, ce serait la même chose. Elle aimerait faire un bon mariage pour se libérer de lui, mais c'est pas facile de trouver quelqu'un. Lyon n'est qu'une petite ville où les vieux célibataires riches n'osent pas se montrer en public avec des femmes plus jeunes qu'eux, à cause des mésidisances. Alors, Il va en cachette voir des putes. Et Sylvain, lorsqu'il est seul, lui pense à Pauline, qu'il trouve très belle et beaucoup plus intelligente que lui. Il se dit dans sa chambre, « Cela ne m'étonne pas qu'elle ne fasse pas attention à moi. Elle doit me trouver nigaud. » Jules, malgré tout, continue à écrire ces deux nouvelles qu'il a prévu de faire. Il écrit avec plaisir, en ayant dans la tête le visage de Sylvain. Les deux héros de ces deux histoires ressemblent à Sylvain. Il a écrit les deux histoires d'affilée et d'une façon très rapide, car tout le sujet était dans sa tête. Une fois qu'il eut fini, il les a donné à lire à sa sœur, qui les a lus, et lui dit « C'est vraiment très beau, du fantastique intelligent. Dès que j'ai eu fini de lire, j'ai eu envie de les relire. Mais chose étrange, c'est qu'en lisant, j'avais l'impression de lire une histoire, qu'une histoire. Elle s'emboîte. » Jules, inquiet, lui dit « Pourtant, j'ai voulu qu'elles soient différentes. Elles le sont, mais ça peut être deux aventures dans la même histoire. L'on peut penser cela. Bien sûr, il faut mettre la première en deux. Tu laisses la première, parce que si tu laisses la première, il n'y a plus de personnages, puisqu'ils sont tous deux morts. » Il lui dit « Oui, tu as raison. Je mettrai cela dans ma préface. Mais je préfère qu'elles soient indépendantes. Je l'écrirai aussi. » Il fait lire à Sylvain ses deux nouvelles. Sylvain les lit dans sa chambre, assis près de la fenêtre. Il se reconnaît de suite à cause de sa description. Cela l'amuse d'être dans un roman. Il reconnaît aussi Apolline. Il s'imagine Jules en démon diabolique. Mais là, c'est plus difficile, car Jules est si bon. Les histoires l'ont beaucoup amusé. Il se dit que Jules a du talent. Pas comme moi, je ne sais rien faire. Jules, inquiet et le corps battant, vient reprendre ses manuscrits. C'est la bonne qui lui a ouvert. « Monsieur veut voir Bibi ?»« Oui, madame. Entrez. »
Il entre. Elle le mène au salon. « Entrez. » Il entre.
Là, il retrouve la mère. Ils ne se sont pas revus depuis la première fois. Elle est assise dans un fauteuil à broder. Il s'avance vers elle. « Bonjour, madame. »«
Bonjour, monsieur. »
Elle lui en veut, car il l'a mise dans un monde à part. Elle, elle est du côté des adultes et lui de la jeunesse. Donc, il la prend pour une vieille femme. Et en plus, il s'accapare de son fils.
« Alors, mon ami, vous venez encore voir mon fils ?»«
Oui, madame. » »«
Vous êtes souvent ensemble, je crois, avec votre sœur aussi. » Tout Lyon parle de ce trio si sympathique qui court la campagne et vont dans des concerts. « Mon fils te dit que vous avez écrit deux jolies choses très charmantes. » »«
Oui, madame. Vous allez me les faire éditer ?»«
Je cherche, madame. » Cela l'irrite de se voir traiter à tout bout de champ de madame, comme si on lui répétait son âge. Elle lui dit « J'espère qu'un jour j'aurai la joie de les lire. » Elle soupire. Il est décidément trop beau. Pourquoi ne cherche-t-il pas à faire la cour aux femmes, au lieu de chercher à plaire à son fils pour en faire son compagnon de jeu? Ce n'est pas normal. Il doit être en retard pour son âge. Je suis sûr que si je lui donnais rendez-vous, il n'accepterait pas, puisqu'il a vu mon fils. Je dois lui parler. Elle lui dit, « Asseyez-vous, j'ai à vous parler. »
Il s'assoit en face d'elle.
Voilà, je trouve c'est que vous voyez un peu devant mon fils. Jules devient tout rouge. Mon fils est un jeune homme, plus un adolescent. Il ne doit perdre son temps à des camaraderies. Il est en âge où il faut qu'il pense à se faire une situation, trouver une femme pour créer une famille. À cause de sa maladie, il a dû du retard dans son développement. Il ne faut pas le retarder plus. Je compte sur vous. Bien, madame. Elle lui sourit et lui dit. C'est pour vous aussi que je le dis. Il n'est pas bon qu'à votre âge, vous preniez trop à cœur certaines amitiés. Cela risque de vous nuire. Quelquefois, certains jeunes gens sont tellement habitués à vivre avec leurs amis qu'ils vivent toujours ensemble. Vous me comprenez? Jules fait vous de la tête et se lève. Je crois que je ferai bien de me retirer. Comme il vous plaira, monsieur. Il s'incline et quitte la pièce. Honteux, la gorge serrée, perdu, elle se dit « Bien fait pour toi. Je t'ai rappelé ton âge et montré ton retard. Bien fait, bien fait. » Jules marche dans la rue, la tête en feu, sans oser penser. Quelle honte! Elle a compris les sentiments qui le lient à son fils. Elle lui a démontré que ça lui était nuisible. À moins que ce soit Sylvain qui lui ait dit de faire cette commission. Il n'oserait pas le dire. Lui aussi a compris ce qu'il ressent pour lui. Il ne veut plus le voir. Il a demandé à sa mère de me faire comprendre le ridicule de nos rapports. J'allais dire liaison. Mon Dieu, ça avait été vrai. Au moins, j'aurais eu ce souvenir. Mon Dieu.
Vous téléphonez ?
Il arrive chez ses parents et va directement dans sa chambre. J'ai perdu Sylvain, c'est fini. Peut-être, est-ce que c'est dans une de ses nouvelles que je lui ai fait lire, qu'il a appris sur moi? Mais je n'ai rien mis à moi. Il va dans son bureau, s'assoit, sort du tiroir les nouvelles et les lit. Après les avoir lues, je ne vois rien, à part que mon héros ressemble à Sylvain, mais il aime les jeunes femmes. Il n'y a rien, rien d'ambigu entre lui et l'homme. Il remet le manuscrit dans le tiroir. Je l'ai perdu. Voilà tout. Il reste assis tristement sur sa chaise, en essayant de ne pas penser. Au bout d'un moment, en sacrifice à son amour perdu, il décide de brûler les deux manuscrits. Ouvre le tiroir. Les regarde bien. C'est sûrement ses œuvres les mieux écrites, finies. Celles dont il est le plus fier. Mon sacrifice sera encore plus grand. Si Dieu existe, il comprendra. J'offre en l'Holocauste le meilleur de moi-même. Il se lève avec ses deux paquets de feuilles, va vers la cheminée, se baisse, prend son briquet dans la poche de son pantalon, met le feu à des brindilles. Puis, une à une, il brûle ses feuilles, il s'empare vite et tombe en poussière dans la cheminée. Une fois que la chose est faite, il va s'asseoir sur un fauteuil. Il regarde les flammes. J'ai offert en sacrifice ce qu'il y a de mieux en moi, en échange. On a frappé à la porte. Entrez. C'est le domestique. Monsieur, vous avez une visite. Monsieur Sylvain Dupin désire vous parler. Il a le cœur qui bat. Mon Dieu, j'arrive. Bien, monsieur. Il vous attend au salon. Jules sort de la chambre en vitesse. Dépasse le domestique, descend les escaliers et ouvre la porte. Essoufflé, Sylvain est là, au milieu de la pièce, debout, le sourire aux lèvres. Jules se dit, mon sacrifice a été accepté. Merci mon Dieu. Il va vers Sylvain. Qui le prend dans ses bras et lui dit « Ma mère m'a raconté ce qu'elle t'avait dit. Ne la crois pas, mon ami. Elle est folle, folle de jalousie. Mais ne nous empêchera pas de que nous continuions à nous revoir et à nous apprécier. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas le droit de te dire cela. Après lui avoir dit ce que je pensais, j'ai couru te voir. J'avais peur de te perdre, de perdre ton amitié. Es-tu fâché contre moi ? » Jules, tout heureux, lui dit, « Non, je ne suis pas. Mais j'étais tellement triste, surtout qu'elle m'avait dit que je te nuisais. » Sylvain lui dit, « C'est plutôt elle qui me nuit en m'empêchant d'être un homme, en me traitant comme un enfant. » Jules se dit, « C'est que Dieu existe. » Puis il dit, allons nous asseoir et buvons. Cela nous remettra de tout ça.
Ils vont s'asseoir sur des fauteuils qui est en face d'une petite table.
Où se trouvent des verres et une carasse de vin. Jules serre et dit, c'est du bourbon. Une fois qu'ils aient bu une gorgée, Sylvain lui dit, et surtout vexé, parce que j'ai lu tes nouvelles et pas elles. En fait, je les trouve très bien. Merci de m'avoir mis en héros. Il faut absolument les faire publier. Je lui dis, J'en ai plus tellement envie. Je trouve pas assez écrites. Sylvain le regarde surpris. Non, pas du tout. Elles sont très bien écrites. Et tu vas me faire plaisir de les faire éditer.
Je ne sais pas.
Sylvain le regarde bien et lui demande. Qu'as-tu? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je lui dis. Rien.
Si je vois qu'il y a quelque chose,
dis-le-moi. Jules rougit.
Sylvain lui dit. Nous sommes amis. Tu dois tout me dire.
Jules se dit. C'est pour lui que je l'ai fait.
Et dit. Les nouvelles n'existent plus.
Comment cela?
Je les ai détruites.
Et pourquoi?
Pour une question personnelle.
Sylvain semble comprendre. Ça fait longtemps que tu les as détruites.
Jules hausse ses épaules.
Sylvain lui dit, tu veux rien me dire?
Il baisse ses yeux et voit que les doigts de Jules sont légèrement noircis.
Il lui dit, je comprends. Tu as fait cela à cause de ma mère, de ce qu'elle t'a dit. Je la déteste.
Elle vient de détruire les plus belles œuvres jamais écrites. Et cela, par gaminerie, jalousie féminine.
Jules se dit qu'il faut le laisser croire à cela. Ça vaut mieux que la vérité.
Jules sourit et gonflé d'amour pour son ami. Il lui dit,
ne sois pas triste pour toi. Ne sois pas trop sévère pour ta mère.
Elle t'aime tellement qu'elle a peur de ton avenir.
Sylvain lui dit, elle ferait mieux de ne pas s'en occuper.
Il n'y a qu'une chose qui me ferait plaisir, c'est que tu aies réécrit ces nouvelles.
Je lui dis, c'est impossible, on ne peut pas écrire deux fois la même chose.
Sylvain lui dit, essaie. Fais-le pour notre amitié.
Jules, toujours heureux, lui dit, je vais essayer, mais je ne te promets rien.
Sylvain regarde sa montre et lui dit, je dois te quitter, malheureusement.
Je suis navré pour tout.
Je lui dis, il n'a pas à être navré. Tout est rentré en ordre, sauf les manuscrits, lui dit Sylvain.
Jules lui dit, ce n'est que du papier noirci.
Sylvain se lève. Jules aussi, et il leur accompagne.
Avant de se quitter, Jules lui dit, « Tu n'as pas à te faire du souci pour les manuscrits. Ils m'ont permis de te retrouver. »
« Comment cela ?»
Jules sourit et lui dit, « C'est mon secret. Peut-être le mettrai-je dans une de mes histoires. »
Et ils se séparent.
Jules est heureux. Son sacrifice n'a pas été vain. Il a été entendu.
Et tout à coup,
il s'arrête au milieu du salon.
J'étais entendu.
Cela veut dire que l'on m'a entendu.
La révélation m'est faite de son existence.
Et si Dieu a voulu exaucer ma demande, c'est qu'il approuve mon amour pour Sylvain.
Mais puisque Dieu existe, tu dois vivre avec cette réalité.
Et vivre comment?
Moi, le pécheur qui est volé, tué, qui est voulu voler, qui aime une personne de son sexe, comment Dieu peut-il aider une personne comme moi? Mais, moi qui ne le prie jamais, comment Dieu peut-il s'intéresser à moi? Pourquoi?
Peut-être a-t-il trouvé de la sincérité dans ma demande et mon sacrifice était un vrai sacrifice.
On dit que Dieu aime les pécheurs car il peut leur pardonner.
Que de questions! Et d'abord, qui est Dieu?
Qui m'a pardonné?
Et celui des chrétiens?
Comment le savoir?
En tout cas, je l'en remercie. Il m'a rendu Sylvain.
Pour y voir un peu plus clair, je vais écrire une histoire sur ce qui m'est arrivé et ce sera pour remercier Dieu. Il est heureux et tout excité. Comme il n'arrive pas à dormir cette nuit, il se refait un résumé de toutes les histoires qu'il a brûlées pour Sylvain. Et après avoir fait son résumé, il s'est rendu compte qu'il se souvenait parfaitement bien de ce qu'il avait écrit et que s'il avait eu le temps, il aurait pu réécrire les deux nouvelles d'un coup sans résumé. Il a décidé, pour remercier Dieu, d'écrire une histoire sur sa gloire. Il veut écrire une histoire dans le genre des écrits que l'on faisait au Moyen-Âge. Sans port de ridicule. Bien entendu, je ne veux pas écrire mon histoire. Ce serait trop intime. Voyons. Seigneur au Moyen-Âge qui habite la Bretagne, un homme fort brutal, sans foi ni loi, vit avec une femme plus jeune que lui. Il ne l'aime pas parce que pieuse et douce. Ils ont eu un enfant. La jeune femme fait de son mieux pour être une bonne épouse. C'est pas facile à cause du caractère du mari. Le mari va voir les filles, viole les paysannes de son pays, se bat, est violent, on l'appelle le diable. Les gens font le signe de la croix à son passage. Un jour, il tombe amoureux d'une jeune fille et veut en faire sa femme. Il tue sa femme d'un coup d'épée et se marie avec la jeune fille. Le jour de ses noces, elle embrasse un lépreux et prend la lèpre. Le Seigneur est effondré, car il l'aime vraiment. Les médecins lui disent qu'elle est perdue, mais à moins d'un miracle. Le Seigneur, par amour pour la fille, fait donc don de sa virginité et part en terre sainte se purifier de tout péché. En échange, il demande à Dieu la vie sauve de sa femme. Après plusieurs années de voyage, d'aventure, il retourne au pays, apprend que sa femme est guérie grâce à lui. Mais, comme il l'a juré, il décide de vivre en ermite dans la forêt. Sa femme l'apprend et lui fait dire par un moine qu'il est pardonné de toutes ses fautes qu'il peut revenir. Il ne veut pas revenir. Le moine lui dit « Dieu t'a pardonné et trouve que tu as assez fait pénitence. Tu résistes à son pardon. Tu pécheras de nouveau en faisant le péché d'orgueil. » Il décide de retourner vers sa femme. Malheureusement, la nuit qui est de noces, puisqu'elle n'a pas eu lieu, se passe mal parce qu'il est incapable physiquement de faire son devoir. Les prêtres l'apprennent et font annuler le mariage. La femme entre au couvent et lui retourne à son ermitage. Un jour, il écrit une lettre d'amour à sa femme. Que Dieu a été touché et lui rend sa puissance. Il va voir l'évêque. Lui explique ce qu'il a eu. L'évêque accepte une seconde nuit de noces qui rendra le mariage consommé. Le Seigneur est tellement heureux des bontés de Dieu qu'il est pris par la grâce et quitte sa femme pour entrer au couvent. Sa femme retourne dans le sien. Il comprend, son mari en est fier. Tous deux s'écrivent de belles et tendres lettres jusqu'à leur mort. J. Jules a fini ce résumé. Il en est satisfait, mais se dit qu'il écrira plus tard une version plus près de la réalité. Les jours passent. Il recommence à se voir. La mère de Sylvain ne l'empêche plus, mais elle surveille. Un soir, le père emmène à dîner une de ses connaissances, monsieur le marquis de Saint-Véran. La famille est au salon lorsqu'il arrive avec son invité. Ils sont entrés au salon. C'est un homme grand, sec, les cheveux blancs, visage émacié, très droit, habillé d'un habit noir. La famille se lève. Le père leur dit :
Je vous présente monsieur le marquis de Saint-Véran, un vieil ami qui est venu à Lyon pour acheter un hôtel particulier. Ma femme.
Madame.
Monsieur le marquis, je suis heureuse de faire votre connaissance.
Mon fils, Charles-André.
Jeune homme.
Ma fille, Apolline.
Mademoiselle, vous êtes très belle.
Merci, monsieur le marquis.
Et Jules, mon dernier enfant.
Jeune homme.
La mère leur dit : Le repas va bientôt être servi. Si vous voulez bien vous asseoir et prendre quelques apéritifs.
Oui, je veux bien, chère madame. J'ai fait 300 kilomètres en diligence.
Et oui, les trains ne passent pas encore de partout.
Je suis un peu étourdi.
Si vous voulez bien me suivre, monsieur le marquis.
La mère le mène s'asseoir dans un fauteuil près d'une table basse.
Et les autres membres s'assoivent autour de lui.
Un serviteur vient avec un plateau où il y a des boissons. Il va le déposer sur la table et sert l'invité et la famille.
Après avoir bu, le marquis dit : Vous avez de la chance de vivre en famille. Moi, je vis seul avec des domestiques et une vieille gouvernante très autoritaire. Que vous avez de jolis enfants.
Jules déteste lorsqu'il y a des invités parce qu'on le traite comme un petit garçon.
L'on a frappé : Entrez.
C'est un domestique. Monsieur, madame, le repas est servi.
La mère se lève et dit : Nous allons y aller.
Ils se lèvent tous pour aller dans la salle à manger.
Durant le repas, le marquis ne cesse de regarder Apolline et de lui sourire. Elle dit à Jules qui est à ses côtés : Le vieux cochon.
Jules lui dit : Dans ces montagnes, il ne doit pas voir si souvent des jeunes filles et de jolies jeunes filles. De si jolies jeunes filles, je veux dire.
Elle lui dit : Merci pour le compliment.
Jules lui demande : Tu préfères lui ou Sylvain ?
Elle lui répond : Le vieux doit sûrement avoir plus d'argent.
Il lui dit : Tu es une vraie garce ?
Non, je suis pratique.
Et je te parie.
Tout ce que tu veux, c'est que ma famille m'approuverait.
Le marquis demande à Apolline :
Mademoiselle, aimez-vous la montagne ?
Elle fait la moue et lui répond :
J'aime mieux la ville.
Son père lui dit :
Elle est jeune, elle dit à Jules.
Il ne doit pas avoir cet argent, ce bouseux,
je lui dis.
Donc, pas de mariage.
Après le repas, ils sont allés au salon. Le marquis dit à la famille :
je cherche un pied-à-terre à Lyon. C'est pour pouvoir y passer l'hiver. Et si j'ai à avoir un médecin, comme cela, je ne serai pas obligé à aller à l'hôtel.
N'est-ce pas que j'ai raison, mademoiselle ?
Oui, monsieur le marquis.
Vous avez une jeune fille charmante. Est-elle fiancée ?
La mère lui répond :
non, monsieur le marquis.
Tant mieux. Elle a bien le temps, charmante jeune fille, et qui a dû être bien éduquée.
Apolline dit à Jules, et va donc, la jeune fille pieuse et innocente.
Il se met le doigt dans l'œil, le vieux.
Une semaine plus tard, Apolline sort de sa couturière et voit s'arrêter près d'elle un fiacre. La portière s'ouvre. Elle reconnaît le marquis de Saint-Véran.
« Oh, ma petite demoiselle, vous me reconnaissez ?»«
Bonjour, monsieur le marquis. Je peux vous déposer quelque part ?»«
Non, merci, monsieur le marquis.
Cela me ferait plaisir. Une si jolie jeune fille ne peut pas marcher seule. Allez, montez.
Bien, monsieur le marquis, si vous insistez.
Elle monte dans le fiacre. Vous allez où ?
Chez mes parents, monsieur le marquis.
Le marquis donne l'adresse au cocher.
Que faites-vous tout seul ?
Je suis allé voir ma modiste.
Ah, les femmes, les chiffons. Mais rien ne vous parie pour s'habiller.
Si vous étiez ma femme, je vous comblerais de cadeaux.
Elle sourit et lui dit :
je ne suis pas pressé de me marier.
Oui, bien sûr, vous êtes si jeune.
Moi, ce n'est pas la même chose. Mais je suis resté d'esprit très jeune. Et la personne qui se mariera avec moi sera très heureuse.
J'en suis certain, monsieur le marquis.
Le fiacre s'arrête devant l'entrée des beaux mandins. Elle dit :
nous sommes arrivés.
Oui, à bientôt, mademoiselle.
Merci, monsieur le marquis.
Il lui ouvre la portière et elle le quitte.
Quelques jours plus tard, le marquis est dans le bureau du père. Ils sont tous deux assis.
Le marquis vient de signer l'achat d'un petit hôtel vers la place Bellecour.
Constant lui dit :
vous venez de faire une très bonne affaire.
15 pièces, cour intérieure avec fontaine. L'hôtel est du 18e,
en parfait état.
Mais qu'allez-vous faire de toutes ces pièces, monsieur le marquis ?
Le marquis lui répond : pour le moment, je suis seul, mais peut-être qu'un jour je me marierai.
Je vous le souhaite.
Constant va chercher dans le confiturier 2 verres et une bouteille de vin.
Du Bourgogne, cela vous va ?
Oui, merci.
Et il pose la bouteille et 2 verres sur le bureau et serre.
Constant lui dit : il y en a qui préfèrent le Bordeaux. Ils trouvent que le Bourgogne est trop épais.
Après avoir bu leur verre, le marquis lui dit :
et vous avez
une jolie fille, très charmante. »
Le père sourit et lui dit
« Oui, très. »
Le marquis lui dit encore « Je suis pas très jeune, 75 ans, mais encore un peu vert, et la personne qui m'aura n'aura pas à se plaindre, j'ai de la fortune. Si par hasard je demandais la main de votre fille, Constant pense au million, j'en serais très flatté.
Oui, bien sûr, mais est-ce que la jeune fille consentirait?
Je laisserai bien entendu le temps de mieux me connaître et de réfléchir. »
Le père demande « Est-ce une demande officielle, monsieur le marquis ?»«
Non, pas pour le moment. Je veux pas la brusquer. Je veux voir si elle accepterait cette idée. Elle semble si douce, si fragile, on dirait une poupée de porcelaine, blanche et maigre. Mange-t-elle à sa faim ?»«
Oui, bien sûr, monsieur le marquis, mes jeunes filles sont comme ça. »
Le marquis regarde sa montre et lui dit « Je dois vous quitter, mais nous nous reverrons, n'est-ce pas ?»«
Revenez quand vous voudrez, monsieur le marquis. »
Ils se lèvent tous deux et Constant leur accompagne jusqu'à la porte. Le soir, Constant en parle à sa femme, parle de la conversation qu'il a eue avec le marquis dans la chambre de sa femme. Elle lui dit
« C'est impossible, il a plus de 50 ans qu'elle. »«
Qu'est-ce que ça peut faire s'ils s'entendent bien ?»«
Comment veux-tu qu'ils s'entendent ?»«
L'argent arrange bien les choses. » »«
Je ne crois pas qu'elle accepte. »
Il lui répond
« Tu ne la connais pas. Elle a la tête sur les épaules. Et c'est ce qu'elle veut. »
Charlotte hausse les épaules et lui dit « Avec toutes les bêtises qu'elle a faites. »
« Oui, cela montre qu'elle a du caractère et qu'elle ne fait pas que rêver. Elle agit. De toute façon, je ne lui dirai rien. C'est le marquis qui veut lui parler. »
« Et si elle dit non ?»«
Eh bien, tant pis pour elle. Les millions iront à une autre personne. Bonne nuit. »
Radio Canus a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 30e partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.
La CVRP, Cinéma Vidéo Radio Production, vous a présenté une cassette OB.
Canu.
La radio utile.